Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
En Libye, depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la guerre n'a jamais cessé. L'épidémie de Covid n'a eu aucun effet sur les combats. Elle a même détourné l'attention internationale, chacun étant préoccupé aujourd'hui par la gestion de la crise sanitaire. Mais les cartes sont rebattues en Libye. Plusieurs puissances étrangères sont impliquées dans le conflit. Et les Européens, comme les États-Unis hier, ont appelé à un cessez-le-feu effectif et immédiat. Pourquoi la Libye redevient une préoccupation notamment pour les Européens, et quels intérêts ont les puissances étrangères engagées dans ce conflit? Comment certaines, à l'instar de la Turquie, ont-elles réussi à s'imposer? Bonjour Jalel Archaoui.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales aux Pays-Bas. Alors, il faut d'abord expliquer quelles sont les forces en présence impliquées dans ce conflit qui, je dois dire, est particulièrement compliqué à lire, Jalel Archaoui.
Oui, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple face-à-face entre manichéens, entre la Turquie et la Russie. Ce qu'il faut imaginer, c'est une puissance de l'OTAN, hein, qui s'appelle la Turquie, qui intervient de manière tout à fait visible, avouée, au vu et au su de tous. C'est la Turquie, du côté du gouvernement internationalement reconnu de Tripoli, qui a été assiégé pendant 14 mois, et en face, il y a évidemment le fameux maréchal Haftar, qui est soutenu par une demi-douzaine d'États, mais d'une manière clandestine. Et c'est ça la symétrie, c'est-à-dire que aussi bien la Russie, l'Égypte et surtout les Émirats Arabes Unis, grands amis de la France, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, tous ces États-là ont du mal à faire face à la Turquie parce qu'ils désirent rester dans l'espace clandestin, inavoué, caché, comme ça, pouvoir le nier, par exemple. Et c'est cette asymétrie-là qui a vraiment changé la situation au cours des 6 derniers mois.
Mais alors, quels sont les intérêts des différents pays? Et d'abord celui de la France, quel rôle joue la France? Est-ce que celle-ci a pris fait et cause pour le maréchal Haftar, Jalel Archaoui?
Dans le domaine diplomatique, absolument. Il y a un engagement parisien pour toujours taire l'action largement illégale du grand ami de Paris, comme je le disais, les Émirats Arabes Unis, qui ont une influence extraordinaire sur le processus des décisions parisiennes sur cette partie du monde. Donc il y a un caractère inconditionnel dans le soutien idéologique et diplomatique par rapport aux Émirats Arabes Unis. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères ne parle jamais de l'action émiratie en Libye, ce qui est fortement anormal parce que c'est un État qui a bombardé la zone de Tripoli pendant 14 mois, comme je le disais. Et ça continue, d'ailleurs. Quel est l'intérêt de la Libye? La Libye, c'est un pays extrêmement bien localisé. Géographiquement, c'est une côte qui a une valeur absolument immense sur le plan touristique, mais aussi géostratégique. Il y a une toute petite population, 6 millions, tous sunnites, donc pas de division sectaire importante, une très grande richesse naturelle, pas simplement le pétrole et le gaz, mais aussi d'autres ressources comme le fer, les diamants, l'or. Et surtout, c'est le ventre mou vers une Afrique qui n'intéresse pas tellement les Européens, mais qui est absolument crucial pour des pays qui exportent, comme la Turquie et la Russie. Hein, c'est un peu une porte, un passage vers le continent africain. Et si on exclut de la Libye, eh bien, ces plans africains sur les quelques décennies à venir ne sont plus aussi pratiques et aussi faciles à mettre en œuvre. Donc, c'est très important.
Et oui, alors, on voit bien les intérêts qu'il y aurait à avoir un pouvoir stable en Libye, ou en tout cas les richesses qu'offre ce pays. Et puis alors, à contrario, Jalel Archaoui, on voit également en quoi une Libye en proie au chaos peut faire peur, notamment aux Européens.
Oui, malheureusement, il y a aussi des États qui préfèrent un désordre constant, parce que la paix porte une signification idéologique qui fait peur certains autres États qui sont beaucoup plus éloignés.
Alors là, il va falloir que vous nous expliquiez quels sont les mobiles des uns et des autres dans ce conflit qui est très compliqué à décrypter.
Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que une guerre qui continue, qui tournerait au bourbier, peut-être pire que ce qu'on a eu, ce à quoi on a eu droit ces 9 dernières années, ce n'est pas le scénario le pire pour les acteurs du Golfe, par exemple.
Pourquoi ?
Parce que la paix voudrait dire une certaine tolérance par rapport à l'islam politique, qu'il soit radical ou voire même modéré, parce que ce sont des pays qui ne tolèrent pas même la version modérée de l'islam politique. Et dans un pays aussi riche et aussi facile à gérer, puisque comme je le disais, dans une situation de paix, c'est une population qui, ma foi, est gérable quand on a aussi autant d'argent dérivé du pétrole, eh bien, ça enverrait un signal idéologique à toute la partie supérieure de l'Afrique et certaines autres sociétés, je parle du Maroc, du Soudan, de la Somalie, de l'Égypte même, et ainsi de suite, pourraient tirer les mauvaises conclusions, c'est-à-dire qu'on considérerait que finalement l'islam politique est un modèle qui marche. Et ça, c'est absolument inacceptable, intolérable, du point de vue d'Abu Dhabi ou de Riyad ou du Caire. Donc ça, c'est ce côté idéologique est complètement différent de l'approche tout à fait réaliste, géographique de pays comme la Russie, qui sont beaucoup plus cyniques, beaucoup plus calculateurs. Donc voilà, il y a l'approche réelle politique, si vous voulez, capable de prendre en considération des paramètres comme démographiques ou géographiques, ainsi de suite. Et puis il y a d'autres pays qui sont très riches, qui sont inarrêtables, et qui se préoccupent beaucoup plus du caractère idéologique de ce que la paix voudrait dire. Donc voilà, c'est pas forcément la paix que tous les acteurs souhaitent, forcément.
Bon, mais alors, plaçons-nous maintenant du côté de pays comme, par exemple, la France, ou alors encore plus proche des côtes libyennes de l'Italie. Bien sûr, aucune situation n'est comparable, mais on sait quelles ont été les conséquences du conflit syrien. Si la situation en Libye se perpétuait dans le désordre et le chaos, est-ce qu'il n'y aurait pas des risques immédiats pour un pays comme l'Italie ?
Bah, on connaît la réponse. Pendant 14 mois, il y a eu près de 200 000 civils déplacés dans la zone de Tripoli. Il y avait des frappes aériennes conduites par les Émiratis de manière quotidienne, avec de plus en plus de civils qui étaient tués ou blessés, surtout en 2020, cette année, les 6 derniers mois. Est-ce que la France était alarmée, par exemple ? Non. Donc, cette idée de désordre, il faut savoir ce que c'est, parce que il y a une forme de tragédie en Libye qui ne signifie pas forcément l'exportation du terrorisme ou l'exportation de migrants, par exemple. Il y a la version à laquelle on a eu droit ces derniers mois, où c'était simplement les Libyens qui souffraient et qui mouraient, et qui voyaient leur économie se faire décimer. Et ce genre de désordre n'est pas forcément une cause d'alarme dans certaines capitales européennes. L'Italie est beaucoup moins puissante que la France. Elle est beaucoup moins influente. Et finalement, le flux de migrants a été largement résolu depuis 2017. Et il ne faut plus imaginer que l'Italie est complètement obsédée par ces statistiques qui sont devenues maintenant très petites par rapport à ce qu'on a vu en 2015-2017.
Alors, que peut maintenant faire la France ? Donc, vous nous avez expliqué que la France soutenait le maréchal Haftar. Il y a toujours et derrière cela, l'idée que le maréchal Haftar peut combattre le terrorisme, en tout cas c'est ce que l'on explique à demi-mot. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ?
Bah, vous savez, je vais répondre très très simplement. Il y a une petite ville peu connue qui s'appelle Tarouna, qui est située à 60 km de Tripoli. On a découvert des centaines et des centaines de corps cachés dans des fosses communes ou jetés dans des morgues. C'était le massacre qui avait eu lieu au cours de ces derniers mois du côté du maréchal Haftar. Donc cette idée du maréchal Haftar qui combat le terrorisme, il faut faire extrêmement attention. Il faut regarder la réalité anthropologique, sociale, observable de ce que ça veut dire. Il faut plus du tout avaler ces narrations d'une manière manichéenne ou simpliste. Et je pense que, par exemple, Paris a une tendance à condamner, par exemple, le côté turc et ne jamais parler du côté émirati. Je pense qu'il faut aller vers un vrai réalisme où on parle à des gens que l'on n'aime pas forcément. La réalité turque dans l'ouest libyen est une réalité aujourd'hui. Elle est permanente. Ils ne vont pas partir. Ils ne partiront pas. Dans 30 ans, on peut avoir la même interview. Les Turcs sont sans doute encore là. Et donc, la France doit savoir parler à des gens qu'elle n'aime pas, y compris son collègue de l'OTAN, la Turquie.
Bon, j'espère que nous parlerons avant 30 ans et que la situation s'améliorera en Libye. Djalel Archaoui, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales aux Pays-Bas.